tout simplement ce que vous avez reçu sur votre cœur d'apporter au Seigneur, de donner une partie de vos finances, eh bien, vous pouvez les donner ici. Du coup, je laisse passer le panier. Et pendant que le panier passe, il y a quelques annonces qui vont apparaître à l'écran, si tu veux bien mettre Eno. Quelques annonces. Déjà, pour tous ceux qui viennent ici pour la première fois, bienvenue à la maison. Bienvenue dans la maison glorieuse des enfants de Dieu. Qui que vous soyez, quel que soit votre arrière-plan, de là où vous venez, que vous soyez croyant, non-croyant, agnostique, baptiste, pentecôtiste, adventiste, réformé, déformé, peu importe, soyez les bienvenus. Et il y a vraiment cette notion que l'Église est une famille et c'est la glorieuse famille de Dieu. Si tu veux mettre les prochaines diapos très rapidement, nous organisons ici dans cette Église des baptêmes. José, si tu peux juste fermer la porte, s'il te plaît. Des baptêmes qui auront lieu le 10 novembre. Pour ceux qui voudraient se faire baptiser, vous pouvez venir à la fin de la réunion. Et il y a des sessions de baptême. En fait, durant toute l'année, là, il y a une prochaine session qui est en train de se démarrer avec JD qui est ici, qui organise la préparation au baptême. Mais une fois qu'on aura baptisé les personnes qui sont là, on va encore démarrer une autre session. En fait, les baptêmes dans une église, c'est la vie d'une église. Du coup, prochain baptême le 10 novembre et on va mettre les petits plats dans les grands. On veut accueillir les gens qui viennent de l'extérieur. On veut leur montrer à quel point Jésus les aime. Ça va être génial. Mais également, si tu mets la prochaine diapo, il y a une date qui est importante. Manquez-moi pas. C'est le 29 et le 30 novembre. Pour ceux qui ne le savent pas, on organise, c'est la première fois, on organise notre réseau d'église, une conférence qui va avoir lieu à Valence. Pourquoi Valence ? Parce qu'il y a une église qui est à Paris avec qui on est partenaire, qui organise là une église à Montélimar. Du coup, Valence, 2 heures de Paris, 1 heure de Grenoble, 1 heure de Montélimar. C'est génial, c'est limité à 300 personnes. Et parce que c'est nous, Connect Grenoble, qui l'organisons, nous avons besoin de bénévoles. Bon, ok, je vais le redire. Parce que c'est nous qui l'organisons, nous avons besoin de bénévoles. Ah. Et combien croient que alors qu'on sert, alors que je me donne à une cause qui est plus grande que moi, Dieu en retour déverse sa pluie, son abondance, ses bénédictions pour inciter tous les bénévoles à s'inscrire, à nous venir nous aider à cette conférence. Il y aura à peu près 300 personnes, on est limité, on pourrait avoir plus mais on va bloquer, on va mettre la jauge à 300 personnes. Mais pour tous les bénévoles, il y a une réduction avec un code promo -50. Et du coup, vous pouvez participer à la conférence, mais aussi avoir un discount sur l'inscription. Et quelqu'un m'a posé la question, mais est-ce que parce que je serai bénévole, je ne vais pas assister aux réunions ? Pas du tout. En fait, l'idée que tu sois bénévole, c'est que tu vas pleinement profiter de toute la conférence. Mais sauf qu'il y a un petit peu d'organisation avant, après. C'est juste peut-être mettre les bouteilles d'eau, j'en sais pas. Enfin, c'est pas moi qui vais m'en occuper, mais des bouteilles d'eau, des machins, vider les corbeilles, voilà. Et du coup, on a besoin de gens pour ça, peut-être au parking, etc. Comment accueillir 300 personnes ? Juste, ça prend une trentaine, une quarantaine de personnes. Du coup, et à tous ceux qui ne se sont pas inscrits, mais qui voudraient s'inscrire, juste faites-le, s'il vous plaît. Je vais parler un peu des orateurs, mais Cathy et Julian Adams, c'est des hommes et femmes, un couple rempli de l'Esprit de Dieu de façon assez hallucinante. Lui, il a ce qu'on appelle un ministère prophétique. C'est quoi ? C'est-à-dire que quand il parle pour les gens, c'est comme s'il est connecté il n'a même pas la DSL, il a la fibre ultra connectée. C'est-à-dire que Dieu lui montre parfois la vie des gens. Moi, c'est assez hallucinant. Je l'ai vu prier pour des gens. Il avait le prénom des gens pour qui il priait alors qu'il ne les connaissait même pas. C'était assez hallucinant. Moi, j'ai vu, j'ai assisté à des réunions où j'ai vu, on était à Paris, je me souviens... Bref, il y avait mon petit frère qui s'éloignait de Dieu, qui est un peu en réaction à l'église, etc. Et il commençait à sortir, rentrer tard le soir, il vivait à la maison. Et c'était cette période-là où il était en réaction totale avec l'église. Je ne veux plus en entendre parler. Et ce soir-là, il y avait Julian qui était en ville. Et j'ai dit à mon frère, s'il te plaît, au nom de l'unité, de la fraternité qui nous unit, viens. Et je me rappelle, il est venu, il était habillé en rouge, il était tout au fond de la salle. Et moi, je priais, tu sais, Seigneur, touche-le. S'il y a un moment dans sa vie, si tu veux lui parler, c'est ce soir. Et puis la réunion se déballe et à la fin, je me rappellerai toujours, il m'a dit, toi, le garçon qui est là-bas. Il a commencé à lui dire des choses que personne ne connaissait dans sa vie. Il a dit, tu as grandi dans l'ombre de tes quatre frères. Et il se trouve qu'on est quatre frères, c'est le dernier. Et voilà ce que Dieu te dit, j'étais derrière lui. Je sentais mon frère, c'est comme si un train lui rentrait dedans. Depuis ce jour-là, j'ai plus jamais eu le même petit frère. Parce que Dieu lui a parlé à lui personnellement. Le maître de l'univers s'adresse à toi et je peux te dire, ça te met une claque assez bizarre. C'est ça qu'on veut vivre lors de cet événement, de ce séminaire. Ça se passe de commentaires. Du coup, si vous faites partie de cette église, ou peu importe, si vous ne faites pas partie de cette église, mais vous croyez, vous voulez que Dieu vous parle, c'est ces moments-là qui sont opportuns. Également, Jus. Est-ce qu'on peut applaudir ce Jus ?
Très rapidement, je ne prends pas beaucoup de temps. Vous savez qu'on a l'habitude, le troisième culte de décembre, de faire un culte un peu spécifique pour fêter Noël. Et la vraie signification de Noël. Et avec ma femme, on a eu à cœur cette année de préparer une louange en commun avec les enfants. Donc des chants qui seront orientés vers Noël. Pas des chants traditionnels de Noël. Vraiment, ça va être fun. Et puis, entre chaque chant, il y aura une petite surprise. Donc je vous invite déjà à être présents. Et surtout, c'est un petit peu du recrutement. Si vous voulez pousser la chansonnette, il n'y a pas besoin d'être un grand chanteur. L'effet de groupe, je vous rassure, fait que votre voix sera noyée dans la masse, mais si vous avez à cœur de venir avec nous, après la GAP cet après-midi, on se retrouvera, vous verrez s'il y a un petit attroupement, vous saurez que c'est nous. Juste, je vais donner juste comment on va organiser ça d'ici là. Voilà.
Merci, Jus. Je vous invite à fermer les yeux. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment parler de toi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, venir ici dans cette salle et qu'il y ait ta présence, qu'on sente que tu es là. On veut te demander pardon pour toutes les fois où on ne considère pas, mais on veut accueillir maintenant ici ta personne. Et je te prie de nous enseigner sur toi, sur qui tu es. Amen. Les amis, je vais essayer de me rendre vulnérable avec vous aujourd'hui. On a fait un week-end de démarrage d'église. Alors pour, voilà, excusez-moi, je vais un peu partout, mais on a démarré cette église il y a à peu près deux ans et demi, trois ans, et j'en suis venu à un moment donné en disant Seigneur, c'est bien, c'est génial, les gens viennent, ils sont contents, le café est bon. Il y a un accueil super, les gens sont... Mais est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus? Et on a eu un orateur invité le week-end d'église qui était la semaine dernière ou il y a 15 jours. Un gars tout simple a commencé à nous parler de la personne du Saint-Esprit. En fait, ils ont vécu un réveil là où ils étaient. Et il m'a expliqué comment le Saint-Esprit agit dans une réunion et à quel point ça peut nous dépasser au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et il me disait, Jo, tu peux du coup faire des réunions et ça va être génial et alléluia. Mais sinon, tu peux faire des... Tu peux organiser un endroit, tu peux donner de l'espace à ce que quelque chose de plus grand vienne. Et quelque part, quand on fait ça, c'est comme s'il y a moins d'emphase sur les gens devant, sur la louange, sur le grand orateur qui prêche très très bien. C'est comme s'il y a une star qui est différente que celle qui est devant. Est-ce que vous me suivez? Et chacun, vous avez une relation avec le Saint-Esprit. Qu'elle soit... Peut-être que vous n'avez pas de relation. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Lui, il fait son truc de son côté, moi, je fais le mien. Peut-être il y a des gens qui sont un peu, tiens, ouais, mais moi, le Saint-Esprit, je pense que c'était pour réserver à l'époque de la Bible. Et puis, il y a des gens qui sont pro-Saint-Esprit. Non, mais moi, je kiffe, c'est vraiment lui. Chacun, on a des degrés ici, là, on est 100, 110 personnes dans la salle. Chacun, vous avez une histoire et des, une variation de palette, d'expérience et d'intensité différente avec le Saint-Esprit. Ok ? Du coup, maintenant, la question que je pose ici, c'est combien croient que le Dieu qu'on lit dans la Bible est le même hier et c'est le même aujourd'hui ? Ok, on démarre là ? Tout le monde, c'est bon ? Ça va à peu près ? Ok. Maintenant, la question que je pose est, est-ce que l'Esprit, quand vous lisez la Bible, est-ce que le Saint-Esprit habite en vous ? Est-ce que vous avez l'impression que c'était quelque chose de puissant à l'époque, ou est-ce qu'il peut agir encore aujourd'hui au travers de vous, ou c'était simplement l'histoire des premiers chrétiens ? Et quand on étudie la Bible, on part souvent de Dieu le Père. C'est parce que Dieu le Père, on comprend. Jésus, on arrive bien à se l'imaginer parce que Jésus, on le voit dans la croix, les églises catholiques et tout. Bon, il est là, on arrive à se l'imaginer. Mais quand on parle du Saint-Esprit, c'est un peu plus obscur. Et c'est David qui nous partageait à quel point le Saint-Esprit, en fait, était une personne. Il nous a détaillé avec des passages, et on pourrait revenir dessus une prochaine fois, pas de problème, à quel point le Saint-Esprit, il avait une intention, il avait une volonté, et on le voit agir dans toute l'histoire de l'Église. Du coup, ce que j'aimerais faire, là, aujourd'hui, maintenant, c'est l'objectif un petit peu, c'est de voir quelques passages bibliques ensemble, mais ensuite, c'est passer à peut-être quelque chose de pratique, on va voir, j'en sais rien, de voir est-ce qu'il pourrait encore agir maintenant. Pourquoi je vous partage ça ? Parce que personnellement, Dieu me confie avec mon épouse le leadership, la vision de cette église, d'aller plus loin, la prochaine étape. Et nous ne voulons pas aller plus loin, un dimanche de plus, sans la personne du Saint-Esprit. J'ai déposé notre orateur lundi, David, à la conférence. Et mardi matin, j'étais tout seul dans ma véranda. J'étais en train de prier. Et je n'ai pas partagé ça à beaucoup de personnes. Non, je crois que personne n'est au courant. Bref, je ne sais pas. Non. J'étais à la maison. Ma femme, la maison est endormie. Il est 6h du matin. Et je me mets à prier. Et je disais de tout mon cœur à quel point je suis désespéré, en fait. J'ai pas d'idée pour comment faire l'Église. En fait, moi, vous êtes ici, merci d'être là, mais j'ai pas d'idée sur c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que tu veux faire, comment. Et comprenez, avec mes idées, simplement moi, on pourrait faire les choses, l'Église, mais c'est pas ça qu'on veut, en fait. Vous comprenez ? Je veux autre chose. Je veux que Dieu soit là. Et du coup, je lui posais la question, je lui disais, et pourtant je connais le Saint-Esprit, j'ai expérimenté le Saint-Esprit, mais c'est comme si à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un qui le connaissait plus que moi, qui le vivait plus que moi, et ça m'a donné envie. Je dis, ce que ce gars-là, il veut, pétard, moi, je le veux. Et puis du coup, j'étais chez moi, et je me suis mis à complètement me relâcher dans mon canapé. Et dans mon esprit, au début, c'était compliqué parce que ça m'a pris bien 15-20 minutes avant de faire le vide, ou je dirais le calme dans mes pensées, parce que je pensais à tout, l'inscription pour les gamins, et puis la prochaine réunion, et puis le frigo, et puis tout le tourbillon de la vie. Et au bout de 20 minutes, je priais, je persévérais. Et au bout de 20 minutes, c'est comme s'il y a eu un son, comme un... Là, ouh, il n'y a plus rien. Et là, j'ai dit, ok, viens Saint-Esprit. Et tout d'un coup, il y a sur le côté droit, c'est comme ça que je peux vous le décrire, il y a quelque chose qui est descendu. Il y a quelque chose, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à rire, je me suis mis à tousser. Il y avait un truc qui se passait et à tout moment, je pouvais arrêter parce que j'étais conscient de ce qui était en train de se passer. Ou je décidais de continuer. Mais vu que je disais, viens Saint-Esprit, dans ma tête, je me disais, mais c'est tellement réel. Et il y avait une autre partie de moi, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais c'est un truc trop chelou, ton truc et tout, etc. Ouais, mais franchement, mais je crois que si c'est lui, eh ben, laisse-le. Et je me laissais aller, et ça a duré 2 heures. Ma femme s'est levée, Elle m'a dit, Jo, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as plus le même visage. Je dis, écoute, tu croiras jamais, mais j'ai rencontré le Saint-Esprit. Ah bah t'en avais besoin. Et du coup, j'aimerais, je vous partage cette expérience et on va lire la Bible ensemble. Mais même moi, là, je me rends très vulnérable à vous. Je pourrais, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est prendre un message et puis j'ai 4 points et puis à la fin, on fait ça, on fait ça. Et c'est comme si de plus en plus, moi maintenant, c'est comme si je sors de mon message et de mes 4 points, je sors de ma boîte et je fais du hors-piste. Et puis il est là maintenant. Et puis je pose la question, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis ce point-là que j'avais prévu de dire, peut-être que tu n'as pas voulu le dire. Et... Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on suit quelqu'un d'autre qui a une intention pour ce moment de faire quelque chose ici. Est-ce que vous le voulez? Ok. Du coup, on va démarrer à partir d'une base biblique. On va venir très simple, la Bible, le livre, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé, comment. Si tu veux mettre la prochaine diapo. Un jour, pendant que Jésus mangeait avec ses disciples, il leur donna cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Donc Dieu le Père avait promis quelque chose. C'est quoi? Moi-même, dit Jésus, je vous l'ai déjà annoncé. Jean le Baptiste, c'était un prophète qui avait précédé Jésus. Il vous a baptisé avec de l'eau, mais dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Et du coup, on se retrouve à ces fameux quelques jours plus tard où il y a 120 personnes, hommes, femmes, enfants, qui se trouvaient à la Pentecôte dans un espèce de lieu comme celui-ci. Et pendant 10 jours, ils ont jeûné, ils ont prié, cherchant absolument le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jésus nous a promis quelque chose, il vient d'être crucifié. Juste après, les disciples se trouvent un petit peu en panne de dire on ne peut pas aller plus loin, il faut qu'on reçoive ce que Jésus nous a promis. Et c'est là où prend place ce texte. Quand le jour de la Pentecôte, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit, tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un vent violent. Le Saint-Esprit est comme un souffle. Le bruit remplit toute la maison où ils étaient assis. Et alors ils voient apparaître des langues, comme des langues, des flammes de feu, des flamèches au-dessus d'eux. Ça devait être assez bizarre. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de faire cela. Et à Jérusalem, à cette époque, à ce moment-là, il y avait des Juifs venus du monde entier. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Et quand ils entendirent ce bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient profondément surpris que chacun entende les croyants parler dans sa langue. Ils étaient très étonnés, pleins d'admiration. Ils se disent, mais tous ces gens sont bien des Galiléens. Alors comment se fait-il qu'on l'entend parler des merveilles de Dieu dans la langue de mes parents? Nous venons du pays des Parthes, de Médicis, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée, du Cap, bref, toute l'Asie autour d'eux. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye, de Cyrène, de Rome, de Crète, d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs, donc c'est des gens qui croyaient un peu en Dieu. D'autres obéissent à la loi de Moïse. Et pourquoi chacun de nous entendait annoncer dans sa langue les grandes choses, les merveilles que Dieu a faites? Ils étaient très étonnés, ils ne savaient pas quoi penser. Et certains autres se dirent entre eux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'autres se moquèrent et en décroyant, en disant, mais non, ça c'est des gens qui sont très ivres. En fait, ce qui se passe ici, si on devait le juxtaposer à notre époque ici, c'est comme s'il y a eu des croyants qui étaient rassemblés à Grenoble. C'est comme s'il y a des croyants qui étaient rassemblés à Grenoble, que tous les grenoblois disent amen. Et puis tout d'un coup, il y a plein de gens, il y a le Saint-Esprit qui tombe ici, hop, on sort, puis il y a le Nerpic, il y a le centre commercial, et puis il y a tout un espèce de fratras, il y a un truc de dingue, et puis il y a plein de gens qui viennent, et puis il y a des gens qui viennent là, ils disent, mais on vient d'Allemagne, de Grèce, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Pologne, de l'Autriche, et même il y en a quelques-uns qui viennent de la Norvège et de la Finlande, et on les entend tous parler des merveilles de Dieu. Ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit est descendu, regardez-moi, donnez-moi toute votre attention, il y a eu ceux qui ont vécu le truc et il y a eu ceux qui n'ont pas vécu le truc. Ceux qui ont vécu le truc, pendant 10 jours, ils étaient ensemble à chercher le Saint-Esprit. Et tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et à ce moment-là, c'est la première fois dans l'histoire que les chrétiens étaient unis et que tous ensemble, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont dit « c'est ça le Saint-Esprit ». Vous me suivez ? Mais il y a d'autres gens qui ne l'ont pas vécu, qui étaient en pèlerinage à Jérusalem. Il y a d'autres gens qui ont vu des gens qui ont fait une expérience. Est-ce que vous me suivez ? Et puis du coup, quand ils ont vu ce qu'ils avaient, cette manifestation, à ce moment-là, il y a eu toutes sortes de réactions. Et c'est là qu'est né les différents mouvements chrétiens, baptistes, anabaptistes, pentecôtistes, etc., etc. En fait, premier point, petit 1, grand 1 plutôt, l'expérience du Saint-Esprit, première chose, ne laisse personne indifférent. Les premiers disciples de Jésus ont fait une expérience surnaturelle. Mais il y avait tous ces gens-là autour qui étaient... En fait, c'était des gens qui venaient à la Pentecôte. En fait, ils étaient en pèlerinage. Et dès ce moment-là, il y a eu 4 syndicats qui se sont formés. Il y a eu les surpris, des gens qui étaient profondément surpris parce qu'ils entendaient chaque croyant dans sa propre langue. Ils étaient même très étonnés. Comment est-ce que tu parles dans une langue que je comprends ? D'autres étaient même admiratifs, plein d'admiration, nous dit le texte. D'autres étaient plus sceptiques, dubitatifs, très étonnés et ne savant pas trop quoi penser. Et puis il y a des gens qui se sont moqués, c'est les moqueurs, en disant « ouais, mais ça c'est des gens qui sont émotionnels, ils sont complètement ivres, c'est un peu bizarre leur truc, c'est le Saint-Esprit, mais c'est... » En fait, ce que je voudrais dire, c'est que, déjà je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, mais c'est après la Pentecôte qu'il y a eu différents courants où il y en a qui disent « non, ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, quand il tombe sur toi, je sais ce que ça fait, c'est que tu te mets à pleurer. » Et puis il y a quelqu'un qui s'est mis à rire et dit « non, ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que moi, je ne crois pas que le Saint-Esprit va faire rigoler quelqu'un. Moi, je crois plutôt que les gens doivent pleurer quand ils sont remplis du Saint-Esprit. » Est-ce que vous me suivez ? Il y a eu toutes sortes de divisions. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont été ralenties, apeurées par le Saint-Esprit. J'avance rapidement. J'aimerais vous dire, les amis, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont surpris, étonnés, circonspects, interrogatifs. Tu peux toi-même expérimenter la présence et la personne du Saint-Esprit. Ok, regardez-moi, donnez-moi votre attention. Si c'est vrai, pourquoi tu ne ferais pas toi-même ton expérience ? Au moins, ce serait ton truc à toi, personnel, que personne ne peut remettre en cause. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit n'est pas réservé, et ça c'est la bonne nouvelle pour nous, aux premiers apôtres. Il n'est pas réservé simplement à une élite, à un corps pastoral, à des gens très spirituels. Le Saint-Esprit, c'est un droit que tu as eu dès la nouvelle naissance, à partir du moment où tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu as accès au Saint-Esprit. La Bible nous parle que c'est un feu. Elle utilise plusieurs symboles. Ça peut être un feu, ça peut être un vent violent, ça peut être un souffle. En fait, c'est toute la plénitude de Dieu qui est disponible pour chaque croyant. Regardez, quand Jésus était sur terre, toute la plénitude de Dieu était consacrée sur un individu. La Bible nous dit que Jésus y venait, y marchait, afin de détruire les œuvres du diable. Du coup, il n'y avait pas tellement de miracles en Chine à ce moment-là. Il n'y avait pas tellement de miracles ailleurs, si ce n'est qu'en Israël, parce que toute la plénitude était en une personne. Vous me suivez ? Jésus a pris 12 gars, il leur a communiqué l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ils ont eu ça, et ça a fait un réveil mondial. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a maintenant, sur toute la surface de la terre, des gens qui ont le Saint-Esprit, et il y a des gens qui en ont peur, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils croient en Jésus. C'est ok, c'est bien. Tu crois en Jésus, tu as ton ticket pour le ciel, tu es baptisé, alléluia. Sauf que c'est limité, c'est tu fonctionnes, tu es une Ferrari qui roule à 10 à l'heure. Est-ce que vous me suivez ? Ça va les amis ? prochaine diapo, numéro 2. Petit 2, le Saint-Esprit est disponible pour ceux qui ont le cœur ouvert. Il y a un jour, l'apôtre Paul, c'était un disciple qui était un des deuxièmes rangs des disciples qui n'a pas complètement connu Jésus. Mais Paul, c'était un gars qui était farouchement religieux. Voyez, si vous aimez la religion, lui, c'était le nec plus ultra de la religion. C'était un orthodoxe, un gars, mais complètement moulé dans les règles, mais n'ayant pas du tout une expérience avec l'Esprit de Dieu. Et un jour, il a eu ce qu'on appelle une rencontre particulière avec Jésus, particulière avec le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, sa vie est complètement changée et il va sillonner toute l'Asie mineure en ouvrant des églises. Et un jour, et c'est là où prend place ce texte, il tombe dans un endroit, il reçoit des croyants et voici, et ça c'est peut-être toi ce matin, il leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, quand tu as cru en Jésus? Ils lui répondirent, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Il leur dit, mais comment est-ce que tu as été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul répondit, oui, mais Jean vous a baptisé un baptême de repentance parce qu'il disait au peuple de croire celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et ensuite, Paul, il leur a imposé les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Il se mit à parler et prophétiser. Écoutez-moi bien. Juste, je fais un petit point là-dessus. Jean le Baptiste, c'était un prophète qui était juste avant Jésus, et Jean a fait un réveil mondial en parlant de se repentir par rapport à la venue de Jésus. Jean le Baptiste, lui-même, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient quelqu'un supérieur à moi qui vous baptisera du feu et d'esprit. En fait, ce que Jean faisait, c'est qu'il y a des gens, il y a du monde à cette époque-là qui se disait, moi ma vie elle ne plaît pas à Dieu, j'aimerais mettre ma vie en règle. Et du coup, c'était un baptême de repentance, c'était un baptême de changement de vie. C'était extraordinaire, c'était partout en Galilée. Sauf que quand Jésus est venu, c'était un autre baptême qui donnait le pardon de tes péchés. Ce baptême-là, et qu'on va voir dimanche et qu'on a eu il n'y a pas longtemps avec Mika et 3-4 personnes ici, où on a baptisé des gens, c'était un baptême de salut. C'était un baptême où je reçois Jésus dans mon cœur, qui me pardonne de mes péchés. C'était beaucoup plus profond. J'avance. Point numéro 3. Le Saint-Esprit nous guide et nous dirige dans toute la vérité. En fait, le Saint-Esprit, ce n'est pas un petit truc en plus, ce n'est pas une option, c'est une absolue nécessité. Prochaine diapo, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, ce n'est pas une religion. Voici ce que Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu d'après le Père et il vous annoncera des choses à venir. Les amis, être guidé par le Saint-Esprit, il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de comparaison possible avec quoi que ce soit d'autre. Être guidé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, c'est mieux qu'une religion. La religion, elle va t'apprendre comment te tenir, elle va te donner des règles, venir à l'église, faire ta bonne action, bonne œuvre, tandis que la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, elle va te conduire, elle va te diriger dans toute la vérité. Et parfois, écoutez-moi bien, il y a des gens, vous êtes ici, vous avez des problèmes. Vous ne savez pas quel est le cœur ou l'origine des problèmes. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que le Saint-Esprit peut aller directement au cœur du problème. Vous êtes là? J'ai vu un reportage très intéressant d'un avion qui s'est crashé, un Boeing en décrochage. Vous savez, vous connaissez un peu, tout le monde comprend le décrochage? Laissez-moi vous expliquer, un décrochage, c'est quand... l'avion n'a plus la bonne portance et que c'est comme s'il tombe, il pique du nez, il n'y a plus rien qui peut être fait et c'est dû à de multifacteurs qui peuvent être à l'origine de la panne. Et quand la panne a lieu, les pilotes ont ce qu'on appelle une checklist qu'ils doivent faire le plus rapidement possible. Ils doivent veiller si ce n'est pas une panne électrique, si ce n'est pas ça. Puis ils le font à deux et ils cèdent et checklist. Et en fait, cette fameuse liste a été réuni avec tous les points dans un ordre prioritaire. Vous comprenez? Alors c'est des gens, c'est des savants, c'est des ingénieurs, c'est des experts en aéronautique qui ont donné l'ordre de la liste. Et dans l'histoire dont je vous parle, ils ont crashé l'avion alors qu'ils avaient, parce qu'il y a des boîtes noires qui relatent tout ce qu'ils se sont dit, ils ont crashé l'avion parce qu'ils étaient arrivés au point numéro 12 alors que la panne, elle était au point numéro 29. Mince. Du coup, se pose la question, est-ce qu'on n'aurait pas pu ramener le point 29 au moins aux trois premiers? Ouais, mais en fait, il fallait quand même qu'il vérifie le 1, 2, 3, 12. Et c'est tous des points importants. Et j'aimerais vous dire que parfois, la vie chrétienne, elle est souvent comme ça. C'est qu'on essaye d'analyser où vient le problème de notre vie. Et quand il y a un crash dans notre vie, on ne comprend pas pourquoi. Parce que Seigneur, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Je suis allé à l'église, je pensais que j'étais bon, je pensais que j'étais ceci. Et je ne comprends pas pourquoi la maladie. Je ne comprends pas pourquoi cette tuile m'est arrivée dans ma vie. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tandis que la personne du Saint-Esprit a cette capacité de t'amener directement au lieu de la panne et de l'aborder en point numéro 1 ou numéro 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Du coup, ça pose la question, est-ce que vous avez une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous l'écoutez? J'avance encore, prochaine diapo. Est-ce que c'est réservé seulement à ceux qui sont baptisés? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est non. Et là, on était avec Paul, maintenant on bascule avec Pierre. Comme Pierre prononçait ces mots, l'Esprit, le Saint-Esprit descendait sur ceux qui écoutaient la parole. On voit dans la Bible où il y a des moments, il y a des endroits où des gens qui ne sont même pas baptisés reçoivent le Saint-Esprit. Et alors que Pierre parlait à des gens, c'est littéralement, c'est presque physique, ça tombe sur eux. Waouh ! C'est extraordinaire. Prochaine diapo. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire pour le recevoir? Vous êtes là? Bah déjà, la première chose, c'est qu'il faut le vouloir. Il faut le rechercher. La deuxième condition, c'est d'être assoiffé, affamé, motivé. Je vais mourir là, à moins que ça se passe. Est-ce que vous me suivez? Je veux, toute ma vie s'arrêtera tant que je ne l'aurai pas rencontré. Il y a cette volonté, cette puissance de vouloir le chercher, être résolu, persévérant, constant. Et ce que vous pouvez faire aussi, les amis, c'est enlever dans votre cœur ce qui bloque le Saint-Esprit de venir et d'agir. Voici ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 30. Dieu vous a marqué de son esprit. Écoutez bien. Alors ne lui faites pas de peine. Ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous a assuré qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Et là, je parle peut-être à certaines personnes qui sont dans l'église, qui sont ici. Et tu dis, je ne suis pas encore complètement libéré. Il y a encore des trucs dans ma vie. Il y a encore des choses. Mais il vous assurera que Dieu vous libérera complètement. Il y a une perspective. Mais ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Il y a cette notion de pardon, je pardonne autrui, je ne garde pas, je ne retiens pas. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître du milieu de vous des cris, des insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce qui bloque... Point numéro 4, ce qui bloque le Saint-Esprit, c'est le non-pardon, c'est cette amertume, c'est ce fiel. En fait, la Bible nous présente en un seul mot, c'est le péché. C'est la désobéissance à la volonté de Dieu en acte, en parole, même en pensée. Le péché éloigne l'être humain, le cœur humain de Dieu, de sa volonté. Un cœur enclin au mal. Et quand je parle d'un cœur enclin au mal, ce n'est pas selon tes critères. Parce qu'il y a plein de gens qui sont ici, vous vous dites, moi je suis quand même une bonne personne. Mais si tu t'évalues selon tes critères, oui, tu es une bonne personne. Tandis que quand tu vois par rapport aux standards que Dieu a, tu t'avéreras que finalement, c'est peut-être pas... Tu reverras tes aspirations un peu à la hausse. Une autre chose qui bloque le Saint-Esprit, c'est le contrôle. On ne veut pas laisser quelqu'un d'autre qui dirige notre vie que nous-mêmes. Et je vais être franc avec vous, je vous fais cette confession. Moi souvent, et c'est que récemment, où je décide volontairement de laisser le contrôle au Saint-Esprit. Tiens, je ne sais pas comment vous êtes, mais parfois, moi souvent, j'étais un contrôle freak. Je veux que tout soit bien, je veux que tout soit cadré, je veux que tout soit millimétré, je veux que tout soit... Et en fait, ce qui était touchant dans ce que David partageait, il disait, c'est comme une forêt. Il y a des forêts où c'est l'homme qui a planté. Et quand vous voyez les forêts que l'homme a plantées, c'est tout tiré au cordeau. Vous avez déjà vu? C'est tout bien droit. Ça, c'est une forêt où il y a l'homme qui a mis sa main. Tandis qu'une forêt où il y a Dieu qui a tout organisé, ça va être un peu de travers. Vrai ? Et quand tu te balades en pleine nature, tu viens pas dire, bah tiens, cet arbre, c'est bizarre, il n'est pas à sa place. Tu te balades en forêt, il y a un ordre divin, il y a un écosystème juste époustouflant. Et ça, c'est comment Dieu agit. Du coup, ici à Connect Grenoble, on veut donner un cadre, mais pas trop. Il faut que ce soit un petit peu le bazar. Juste de quoi laisser le Saint-Esprit agir. Est-ce que vous êtes avec moi ? Du coup, ça fait flipper parce qu'il y a une partie de nous-mêmes, on voudrait que tout soit bien. Même, regardez, là, vous êtes là. Puis les chaises sont comme ça. Asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous. Il y a quelque part un peu, on voudrait... Pétard, est-ce que c'est possible ? Poum ! Mais on a besoin quand même. On a besoin de s'asseoir. Est-ce que vous me suivez ? En fait, c'est une question de cœur. Est-ce qu'on pourrait se laisser diriger ensemble par le Saint-Esprit ? Peut-être qu'un jour, on va se réunir ici, puis Saint-Esprit va venir nous dire ben, « sortez dehors ». Peut-être qu'un jour, on devrait enlever les chaises en disant ben, « aujourd'hui, juste pendant la louange ». Et d'ailleurs, on réfléchissait avec toute l'équipe ici, on devrait peut-être mettre les chaises sur les côtés. Je suis sûr qu'un matin, on va le faire. Les gens vont dire « oh, 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 ça a bougé là ». Tu vois, un peu nos habitudes qui sont troublées, mais c'est bien. Parce que si tu commences à être complètement dans ton cadre, c'est que tu es dans une boîte. Et que tant que tu es trop dans une boîte, bah, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit n'agit plus. Et tu deviens moulé complètement. Et le problème quand tu es moulé, c'est que quand on te démoule, tu ressembles à une tarte. Et j'aime bien cette image-là, parce que le Saint-Esprit est comme une colombe qui nous sort de notre prison. Et en fait, j'ai lu ici, je regardais un petit peu. Est-ce que j'ai du temps ? 49 ? Oui, ok, encore un petit peu. Quand tu abandonnes le contrôle, ta vie au Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne qui contrôle. Ça veut dire qu'il y a juste quelqu'un d'autre qui tient le volant. Quelqu'un d'autre est là, à la barre. Ça veut dire que tu acceptes que quelqu'un de plus grand que toi mène ta vie. Mais il en est hors de question, monsieur. Je sais mener ma vie quand même. Eh bien, justement, il y a ce moment-là où tu acceptes de ta propre volonté de dire, Saint-Esprit, je te donne le leadership, je te donne la conduite de ce moment, même ici, de cet instant, de la prochaine chose que je vais dire. La Bible nous parle en termes de symbole, elle nous dit que le Saint-Esprit est un feu. Ça veut dire que si on regardait un feu, ce qui est extraordinaire avec le feu, c'est que tant que tu mets du bois, ça va continuer. Et le bois, c'est toi, c'est moi, c'est ta vie, c'est l'abandon de ta vie. Tant que tu amènes ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. Le jour où tu donnes plus de bois, ça s'éteint. Le Saint-Esprit également, il y a plein de symboles. C'est un vent violent. Essayez de contenir une tornade. Ça risque de bouger les chaises. Mais si le Saint-Esprit souffle, ça risque de bouger. Est-ce que vous êtes OK ? Est-ce que vous allez vous moquer comme les premiers chrétiens ? D'ailleurs, tous venaient adorer Dieu quand on lit l'histoire. Ils venaient au temple célébrer Dieu. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de... C'est un peu bizarre. Si Saint-Esprit fout le bazar, est-ce qu'on est OK ? Est-ce qu'on est choqué ? Le Saint-Esprit également comme une colombe. Et déjà, je me suis renseigné un peu, j'ai fait... une étude, enfin j'ai essayé de regarder une colombe, c'est un oiseau qui est parfaitement sensible. Et je regardais, et en fait, on réfléchit rarement, peut-être même jamais, au fait que nos actions, notre mode de vie peuvent attrister le Saint-Esprit. Et la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu es prêt à te laisser conduire par le Saint-Esprit ? Qu'importe cela où peut t'emmener ? Où est-ce que tu vas continuer à lui résister ? Et quand on parle de cette colombe qui est ici, cette colombe qui représente le Saint-Esprit, elle est associée au baptême de Jésus. La Bible nous dit que lorsque Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sous une forme de colombe. Ça représente la pureté, l'innocence. Ce n'est pas un oiseau qui est prédateur, c'est un oiseau qui vit en paix, en tranquillité, comme le Saint-Esprit, qui est porteur de cette paix intérieure qu'il veut te communiquer. Et le Saint-Esprit a une capacité aussi à nous conduire, à nous guider. C'est une caractéristique de la colombe. D'ailleurs, elle avait un instinct de partir très très loin, sur des très longues distances. Elle a été utilisée dans l'Antiquité pour apporter des messages de la même façon que cette colombe, en représentant le Saint-Esprit, est venue nous apporter l'amour du Père. Cette colombe est douce, pacifique, humble. Et j'ai découvert un autre truc. Est-ce que vous savez que la colombe n'a pas de vésicule biliaire ? C'est un des rares animaux qui n'a pas de... Vous savez, dans votre foie, vous avez une vésicule biliaire qui retient le fiel, tout ce qui est l'amertume. La colombe n'a pas ça. En fait, dans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas ça. Et si cette colombe vient se poser ici maintenant, sur mes épaules, ça veut dire que je vais être conscient qu'il est là et je vais marcher tout doucement en faisant attention à ne pas le brusquer, à pas... Tout ce que je veux, c'est qu'il soit là. Je veux marcher au diapason. Je veux marcher comme le Saint-Esprit me dit, là où il veut aller, là où il bouge. Est-ce que vous êtes avec moi ? On va démarrer ici une série sur le Saint-Esprit. Parce que je veux qu'on grandisse avec la personne du Saint-Esprit. Et ici, on est une école qui mélange crèche, maternelle, primaire, collège, université. Il y a toutes les classes. CE1, CP, CM1, Bac plus 5, il y a tous les niveaux. L'idée quand même, c'est d'arriver chacun à une certaine connaissance, une certaine maturité. Connecte Grenoble, si vous êtes OK, on veut grandir avec la connaissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on se donne un deal top là ? On le fait ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est quoi le but ? Écoutez bien, donnez-moi toute votre attention, je termine ici. Si on a le Saint-Esprit, on va faire les choses que Jésus a faites. C'est-à-dire des choses, il y a des fruits, il y a des miracles, il y a des choses qui se passent que tu n'as pas dans ta vie traditionnelle normale. Est-ce que ça vous tente de voir des miracles ? Est-ce qu'il y a des gens, vous voulez voir des trucs, des « wow, wow, ça, je ne savais pas que la vie chrétienne, c'était comme ça. » Est-ce que, tu sais, le truc, ça, bouh, ça envoie du pâté. Eh bien, il y a un moment donné, ça, il faut que ça vienne avec le Saint-Esprit. Cette semaine, si tu mets la prochaine diapo, il y a Benjamin Lakira, vous voyez ce jeune qui est souvent ici, directeur de Phare FM. C'était jeudi, il y a 10 jours. Il m'appelle, il m'a dit « Ouais, Jonathan, tu donnes énormément à l'église, il faudrait que tu t'occupes de toi. » Je dis « Ouais, ouais. » Alors déjà, quand on m'aborde comme ça, je dis « Oui, mais encore. » Il me dit « Écoute, j'en ai parlé à ta femme, elle est d'accord, il faut que tu viennes à Grenoble à 14h et puis tu verras. » Je dis ben, dis-moi. « Non, 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 tu verras. » Tu sais, c'est comme quand on était gamin, « Dis promis. » Et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je dis, ok, mais Ben, tu sais, je ne sais pas si tu es au courant, je suis pasteur, je suis occupé. Il me dit, non, j'ai vu avec ta femme, il faut que tu sois là, vraiment, j'ai organisé quelque chose pour toi. Je dis, ok, bon, d'accord. Et puis finalement, arrive midi, il m'invite au restaurant, il paye le restaurant. J'étais touché d'ailleurs, c'est bien, il n'est pas là, je peux parler de lui tranquillement. Touché au restaurant, et puis on parle de l'église, il me partage son témoignage, sa vie, on a un vrai cœur à cœur. Et puis je dis, bon, tu vas où ? Il me dit, écoute, rien. Je t'amène au barbier. Je dis, ok, cool. Il mène au barbier. Moi, c'est la première fois que j'allais chez un barbier. L'expérience n'est pas désagréable. Tu te fais poupouner. Voilà. Puis, barbier, côté de Fantin-la-Tour, et je rentre. Et vu que je suis dans ma période un peu remuée par le Saint-Esprit, l'avant-veille, j'avais eu cette fameuse expérience dont je vous ai parlé. Je disais, viens, Saint-Esprit. Je me mettais à pleurer, je me mettais à rigoler. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'était le lendemain. Du coup, je suis un peu encore sur mon nuage. Et quand je suis sur mon nuage, enfin j'étais, et j'espère vous amener sur son nuage, je disais, Saint-Esprit, je rentre chez le barbeur, du coup, il y a des Turcs, il y a des musulmans, chacun, tu les vois chargés spirituellement, qui remontent à des ancêtres millénaires. Il y en a certains, si tu pries pour eux, il y a du monde qui va pas. En tout cas, et puis je suis là, il y a un gars qui me regarde avec des yeux, mais injectés de sang. Je dis, waouh, et puis c'est bizarre quand même l'atmosphère. Et le Saint-Esprit, il vient sur moi, je me sens en paix. Le monsieur, il passe, il commence à me raser. Le rasoir était très près de mon cou. Seigneur, protège-moi. Puis le monsieur était bien. Et puis je commence à parler avec Ahmed, qui vient de démarrer à son barbeur, et puis etc. Et puis on est là. Et je commence à parler à Ahmed. Je lui dis, est-ce que tu connais Dieu ? Il dit, ben ouais, je connais Allah. Est-ce que tu connais la Issa ? Est-ce que tu connais la personne du Saint-Esprit ? Il dit non. Je dis, est-ce que tu voudrais le connaître ? Ah oui. Je dis, ben écoute, juste donne-moi ta main. Je commence à prier pour lui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais demander à Dieu ? S'il était là devant toi, qu'est-ce que tu demanderais ? Ben, je voudrais que le business avance. Saint-Esprit, je te prie de toucher Ahmed. Tu vois son business, tu vois ça, tu vois les... Et quand j'ai fini de prier, son visage, il était comme changé, illuminé. Et je ne vous mens pas, Benjamin pourra vous le dire, c'est exactement ce que je vais vous dire qu'on a vécu. Il y a son oncle qui est italien, il l'appelle Zio. Parce que d'ailleurs, tout le monde pense, en fait, c'est son oncle, du coup, il l'appelle Zio, ce qui signifie oncle en italien, mais il l'appelle Zio, du coup, tout le monde pense qu'il s'appelle Zio. Bon, c'est un... Et puis Zio arrive, il se met derrière, et Zio est complètement bloqué du dos, mais il hurle de douleur. Il fait « Ah ! Ah !» et il s'assoit. Et moi, je le vois dans le miroir, et je fais « Zio, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « Je suis bloqué, je suis bloqué. » Je fais « Reste ici, tu vas voir, tu vas être guéri. » Et puis le gars, il me regarde, il m'attend. Il croyait que j'étais un kinésithérapeute, etc. Je me suis levé, comme j'étais, je vous dis, sur mon nuage Saint-Esprit, je lui dis « Viens, Jules, viens. » Je lui dis juste, Saint-Esprit, viens. Bon, fais le gars qui ne peut plus marcher, voilà, comme ça. Juste, Saint-Esprit, viens. Je pose ma main. 3 secondes plus tard, ses yeux ont changé. Il était choqué, mais genre, comme ça. Et fait choqué, voilà, c'est ça. Choqué. Le gars a vu un ours. Il me dit, j'ai plus mal. Du coup, Zio, il ne comprend pas ce qui se passe. Ahmed, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, c'est quoi le truc de fou ? Je dis, les amis, vous savez quoi ? Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est venu. La Bible nous dit qu'il faisait des miracles. Et c'est lui maintenant qui vient de faire ce miracle-là. Il est parti chantant et louant Dieu. Il n'avait plus de mal. Et puis on sort, Benjamin, ah, c'était top, c'était dingue. Oh, t'es comme ça, toi, Jonathan. Ben, je dis, ben non, je sais pas, j'en sais rien. Juste, voilà, on fait ce que Jésus nous a demandé de faire. Libérer les malades, chasser les mauvais esprits, c'est pas compliqué. Dio, il avait mal. Il a plus mal. On vient de lui faire économiser 75 balles de kinésithérapeute. Il me dit, ben, je t'amène maintenant dans un salon de massage. Je lui dis, t'es sérieux ? Il me dit, oui, c'est pour un massage de la tête. En plus, t'as plus... Il m'avait complètement rasé la tête. Je dis, écoute, ça va être cool. Je dis, ok, d'accord. Et franchement, les amis, c'était un peu désagréable pour moi. Alors, le massage, parfaitement, mais le fait qu'on me sorte un peu de mes habitudes, et chanter le Saint-Esprit qui me dit, laisse-toi faire. Oui, mais j'aime bien me laisser faire, mais quand même, monsieur, j'ai des principes. Et on arrive dans un salon de massage. Et moi, vu que je suis encore un peu toujours sur mon nuage, je dis, Saint-Esprit, qui est-ce que tu veux toucher ? Puis, bonjour, monsieur, vous êtes monsieur ? Bah, parfait. Voilà, déshabillez-vous, ça va se passer au premier étage. Seigneur Dieu. Juste enlever le haut. J'ai enlevé le haut, puis une dame vient déjà qu'elle me touche. Tu vois, mais et je sens Saint-Esprit. Et moi, tout de suite, je dis, Saint-Esprit, est-ce que c'est safe ? Est-ce que c'est clean ? C'est quelqu'un qui, voilà, puis c'est un massage de la tête. J'ai pas envie que, je sais pas, qu'elle me télécharge des trucs. Et le Saint-Esprit me dit, je vais te bénir au travers de ses mains. Et je me laisse complètement aller. Et là, je suis visité par Dieu. Je suis touché. C'est bon, un massage où quand le Saint-Esprit, j'oublie complètement la personne. Et puis ça dure 3 quarts d'heure, il y a de la musique, je suis bien. Et je chante Dieu qui me dit, je t'aime mon fils, je t'aime. ce que j'ai commencé à Grenoble, je vais continuer, je vais le poursuivre. Continue de te laisser guider. Continue à jouer avec moi, marche avec moi. Je suis là, je vais te conduire. Je fais, oh, c'est trop bon, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis elle me met une serviette chaude à la fin, c'était déjà fini. Et je pose la question, Saint-Esprit, est-ce que tu as quelqu'un à dire à cette dame ? Il me dit oui. Ok, qu'est-ce que je dois lui dire ? Dis-lui que quand son père et sa mère l'ont abandonné, moi je ne l'ai jamais abandonné, je l'avais vu. Oui, ma serviette, je lui dis, madame, excusez-moi, vous avez... ça va peut-être vous sembler très bizarre ce que je vais vous dire, ne m'en voulez pas. Mais je suis pasteur, parfois j'entends la voix de Dieu. Et j'ai juste un message de la part de Dieu, enfin c'est plutôt le Saint-Esprit, mais bon c'est une longue histoire, on verra ça plus tard. Mais le Saint-Esprit qui me dit de vous dire que quand votre père et votre mère vous ont abandonné, Dieu vous a recueilli, il ne vous a jamais abandonné. Je lui aurais mis une gifle que ça aurait fait le même effet. Elle s'appelle Durel, elle est bouleversée. Elle lui dit, écoutez monsieur, c'est fou ce que vous me dites parce que j'ai connu Dieu, j'ai abandonné Dieu. Et avec ma sœur, figurez-vous que cette semaine, on prie et on priait et on a dit cette semaine, lundi, on était mercredi, lundi, on a dit à Dieu, est-ce que tu pourrais mettre quelqu'un sur notre route parce qu'on a envie, ma sœur et moi, de se faire baptiser. Je me permets d'en parler parce qu'elle n'est pas là ce matin. Donc avant-hier soir, Durel a intégré le groupe de baptême de cette session pour se faire baptiser prochainement. Si elle vient ici, je ne vous ai rien dit. Les amis, je n'ai rien fait si ce n'est que d'être disponible à ce que le Saint-Esprit voulait faire. Et j'ai vu des petits trucs en plus. La question que j'ai envie de vous poser, les amis, ce n'est pas, et ce serait dramatique que ce soit réservé simplement à Jonathan, que ce soit réservé seulement à quelqu'un. Ce même Saint-Esprit est disponible à chacun d'entre vous. La bonne nouvelle, c'est ça. Maintenant, qui veut être rempli du Saint-Esprit ? Qui veut faire les œuvres que Dieu avait annoncées ? Ok, levons-nous tous ensemble. Ou la guitare. Alléluia.